trois voix aujourd'hui, Henri Van Leer, trois voix qui sont chacune elle-même d'autres voix, toutes ces voix que l'homme contemporain peut ressentir en lui, lui qui, n'étant plus rien, est tout le monde à la fois. Artaud, donc, Sarraute et Ionesco, qui se rencontrent dans les altérités de la voix.
Proust nous a montré la fécondité de la maladie. Et Artaud le confirme au centuple. Ce n'est pas un fou, il faut bien le dire, même pas à la fin. Mais c'est un névropathe grave. Il souffre en tout cas de troubles des muscles ronds, des sphincters, disons anales, urétrales, mais aussi chez lui, il y a des troubles de la phonation, il y a de la déglutition sans doute aussi, des troubles au niveau non seulement de la bouche mais du larynx. Or, précisément Freud au même moment, montre à quel point ces orifices, ces quatre ou cinq orifices à muscles ronds, ces orifices à sphinctères du corps humain, commandent justement, contrôlent le rapport pour un être entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire pour finir toute l'existence. Et dès 1924, Artaud parle d'un effondrement central de son âme. Alors il aura au moins un contour. Eh bien non, il n'a ni centre ni contour. Et précisément parce qu'il est atteint à ce niveau des muscles ronds qui sont, semble-t-il, trop spastiques. Alors, où se situer? Qu'est-on encore? Eh bien, pour lui, plus encore que pour d'autres de ses contemporains littérateurs, il ne va rester ni objet, ni sujet, ni véritable causalité, c'est-à-dire de succession réglée entre les choses autour de lui. Et comme il le dira fortement, il ne restera même plus ni d'être, ni de langage. Alors quoi? Eh bien, nous arrivons au fond du fond, que reste-t-il? La matière. Et même, on pourrait le dire en termes scolastiques, la matière première. C'est-à-dire, même pas cette matière seconde qui commence déjà à prendre forme. Non, vraiment, cette matière première qui n'est rien, qui n'est aucune substance particulière, aucune quantité, aucune qualité définissable. Et il y a un artiste qui lui semble avoir vécu ça, et donc auquel il peut se référer, et c'est Van Gogh. Je dirais que Van Gogh est peintre, parce qu'il a recollecté la nature. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de choses très extraordinaires. Mais qu'il l'a comme retranspirée, effaçuée. Nous sommes bien au niveau d'une matière très peu définissable. Le corps n'est plus des organes, il n'est plus que cette transpiration en faisceau sur ses toiles, en gerbe, comme monumental de couleur. Mais attention, le monument chez lui va être tout autre que ce qu'il serait ailleurs. Le séculaire concassement d'éléments. L'épouvantable pression élémentaire d'apostrophes, de stries, de virgules, de barres, dont on ne peut plus croire après lui que les aspects naturels ne soient faits. Le plus net est donc alors la suppression d'organes. Les organes qui, justement, dans la forme grecque, distribuent le corps, font que le corps soit une forme intégrée, constituée de parties intégrantes. Car liez-moi si vous le voulez, mais il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Et qu'est-ce qu'il veut? Moi. Qu'est-ce que c'est le moi ici alors? Un corps en train de se faire. Par conséquent, non encore parvenu à l'état d'achèvement, mais qui évoluait vers la pureté intégrale. Et en effet, ce rien intégral permet alors de définir corrélativement une pureté intégrale. Encore une fois, moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma mère, et moi, niveleur du périple imbécile, ou sans faire, l'engendrement, le périple, papa, maman, est l'enfant. En effet, s'il n'y a plus de forme, il n'y a plus de transmission de forme, et donc il n'y a plus de véritable engendrement, et chacun est obligé de s'engendrer lui-même à partir de la matière première qu'est devenue son corps. Donc, pas de philosophie, pas de question, pas d'être, pas de néant, pas de refus, pas de peut-être, et pour le reste, crotter, crotter. Nous sommes bien dans ces muscles ronds, dans le sphincter anal, il mourra d'un cancer à l'anus. Alors, nous débouchons sur le problème d'Artaud. C'est que c'est quand même plus ou moins un écrivain. Or, si tout ce que nous venons de dire est vrai, il est impossible d'écrire. Et en effet, c'est ce qu'il dit, toute l'écriture est de la cochonnerie. Et dans cochonnerie, il ne faut pas tellement écouter le sens du mot, il faut surtout voir ce ksh en deçà du langage. Tout vrai langage, justement ce langage qui n'insiste pas tellement sur cochonnerie, mais sur ce ksh, sur ce nr, tout vrai langage est, dit-il, incompréhensible. Et il l'est vraiment d'ailleurs, comme la claque, du claque-dent. Et le claque, une entre parenthèses bordel, du fémur à dents, une entre parenthèses encens, et voici peut-être plus caractéristique encore, il est réduit à dacantala dakisketel. Et ce qui est important, c'est le jeu des occlusifs centrales, justement, non sonores, sourdes centrales, kate dacantala dakisketel, taredala, taredavel. Destramintil, c'était pteni, c'était ptatra.
Dans ce non-univers, en tout cas dans ce non-monde, il n'y a pas place pour des œuvres. Valéry a beau dire qu'il n'y a que la poiesis qui compte pour lui, l'acte de faire, il produit quand même des poèmes, des résultats de la poiesis. Ici, pas de résultat, pas de poème, peut-être pas même de vrai poiesis. C'est la stratégie et la tactique de la terre brûlée, Léon Attila. « Je n'aime pas la création détachée, dit-il. Je ne conçois pas non plus l'esprit comme détaché de lui-même. Chacune de mes œuvres, chacun des plans de moi-même, chacune des floraisons glaciaires de mon âme intérieure bave sur moi. Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être et le châtrage insensé de ma vie que dans un essai extérieur à moi-même et qui m'apparaît comme une grossesse indifférente de mon esprit. Pas d'œuvre. Pas de langue, pas d'esprit, rien, rien, rien. Sinon un beau pèse-nerf. Les deux « et » du français repris par le « r » final. Une sorte de station incompréhensible et toute droite. C'est peut-être toi, Artaud, ça, le dernier mot d'Artaud. Une station incompréhensible et toute droite au milieu de tout, dans l'esprit.
Alors si toute écriture est cochonnerie, et qu'on ne peut plus se réfugier dans l'écriture, qu'est-ce qui pourrait rester? Eh bien, le théâtre. Le théâtre, depuis 500 avant Jésus-Christ, avait été, depuis 450, avait été l'endroit où exultait la forme, les formes globales des gestes de l'acteur, et aussi de la voix de l'acteur. Dans la voix grecque, au technakan moutou pala inéa trophétinas poté drastas demoitoads ete icterioi skladois inexestem menoi. L'acteur est complètement rassemblé et tout le public qui le regarde dans ce théâtre en demi-cercle est lui aussi rassemblé, chaque fois comme individu et comme collectivité sociale. Eh bien, c'est ça qui, à partir déjà de Rimbaud, ça commence en 1870. Alors nous avons vu comment, bon, Claudel a pu faire une espèce de retour à Eschyle, mais comme le disait Saint John Perse, après l'Eschyle qu'est Claudel, il n'y aura pas en langue française ni de Sophocle, ni d'Euripide. Alors de nouveau, que va-t-il rester? Si vraiment tout est parti, l'objet, le sujet, les causalités, eh bien là aussi va rester la matière. Le théâtre va être le seul des arts où le corps apparaît comme corps, où le corps va pouvoir transpirer, comme tout à l'heure Van Gogh, lui aussi dans la même situation qu'Artaud, il suffit de le prononcer correctement, Van Gogh. Van Gogh, un O entre ces deux formidables gutturales. Van Gogh, celui qui n'est jamais né. Celui qui, dans son dernier tableau, montre deux champs de blé, qui en serre un chemin qui aboutit à une sorte de bouchon muqueux, mais qui n'éclatera jamais. Le gliscroïde, le visqueux, comme disait Minkowski. Famille à laquelle, évidemment, Artaud lui aussi appartient. Et donc, il va vouloir mettre en place un théâtre qu'il appelle le théâtre vrai, comme il y a le vrai langage. Le théâtre vrai m'est toujours apparu, alors, comme l'exercice d'un acte dangereux et terrible, ou d'ailleurs aussi bien l'idée de théâtre et de spectacle, le théastai grec, disparaît. S'élimine donc cette idée, aussi bien que celle de toute science, de toute religion et de tout art. L'acte dont je parle vise à la transformation organique et physique vraie du corps humain, et c'est ce que, après lui, c'est par là qu'il est devenu tellement important dans la suite, c'est ce que vont faire le Living Theatre, le théâtre de Bob Wilson, le regard du sourd. Artaud est vraiment celui qui montre la fin du théâtre gréco-latino-renaissant et le passage à ce nouveau théâtre qui est l'engagement, ou plus exactement, la refonte du corps. Il y a un idéal théâtral d'Artaud. Et c'est Héliogabale, l'empereur romain. Héliogabale, dit-il en tant que roi, se trouve à la meilleure place possible, la royauté de théâtre, pour réduire la multiplicité humaine et la ramener par le sang, la cruauté, la guerre, jusqu'au sentiment de l'unité. Son insurrection est systématique et sagace. Tous ces S sont importants. L'insurrection est systématique et sagace. Et tous ces S, c'est bien Artaud, la pointe d'Artaud. Et il la dirige d'abord contre lui. Lorsqu'Héliogabale s'habille en prostituée et qu'il se vend pour 40 sous à la porte des églises chrétiennes, des temples des dieux romains, il ne poursuit pas seulement la satisfaction d'un vice, encore un S, hein, vice, insurrection, systématique, sagace, mais il humilie le monarque romain qui est en lui. Lorsqu'il fait nommer un danseur à la tête de sa garde prétorienne, il réalise là une sorte d'anarchie incontestable mais dangereuse. C'est bien ça ce théâtre qui est dangereux pour le spectateur. Il bafoue la lâcheté des monarques, ses prédécesseurs, les Antonins et les Marcorelles, et trouve que c'est assez d'un danseur pour commander à une troupe de policiers. Il appelle la faiblesse, la force et le théâtre la réalité. Il bouscule l'ordre reçu, les idées, les notions ordinaires des choses. Il fait de l'anarchie minutieuse et dangereuse. Artaud est un constrictif. Or, il y a eu une civilisation tout entière de la constriction, le Mexique, où chaque élément de sculpture subit la compression verticale et horizontale de la géologie ambiante. Artaud a trouvé, au Mexique, dans le peyotl, un certain soulagement à ses souffrances physiques, bien sûr, mais aussi une confortation de ses vues. Écoutons-le, il y a au nord du Mexique, 40 heures de Mexico, une race de purs indiens rouges, les Tarahumaras, les Indiens rouges, l'Indien rouge, c'est encore lui, hein. Si incroyable que cela paraisse, les Indiens Tarahumaras vivent comme s'ils étaient morts. Ils ne voient pas la réalité et tirent des forces magiques du mépris qu'ils ont pour la civilisation. Ils viennent quelquefois dans les villes, poussés par je ne sais quelle envie de bouger, voir, disent-ils, comment sont les hommes qui se sont trompés. Ils continuent. Le peyote, lui, ne rend pas le réel. Mais il décourage de l'intelligence. Et il nous renvoie dans la vie comme purgé après une phase indicible de transe. Je ne voulais pas, en allant au peyote, entrer dans un monde neuf, mais sortir d'un monde faux. J'allais donc vers le peyote pour me laver. Plus haut, il a parlé de cette bave sur moi. Bien sûr, il avait deviné ce qu'il allait devenir. Un thème, comme il est un thème de cette émission. Alors, je serai compris dans 10 ans par les gens qui feront aujourd'hui ce que vous faites. Alors, tous mes feux seront coulés dans la chaux, toutes mes veines mentales. Alors, on percevra mon bestiaire, et ma mystique sera devenue un chapeau. On a souvent demandé à Nathalie Sarraute si elle ne faisait pas élogie du théâtre. Elle répond non, mais on retrouve chez elle quelque chose de cette altération, et plus exactement de cette altérité de la voix que nous venons de rencontrer chez Artaud. Mais voilà, prenons les fruits d'or. Un grand critique qui s'appelle Parot a écrit un article éblouissant sur un roman qui s'appelle Les fruits d'or. C'est très très élogieux, mais quand même, autour de lui, on se demande s'il n'a pas un peu exagéré. Le voilà pris. Il est tombé dans le piège. Impossible de s'échapper. Et par sa propre faute, comme toujours. C'est le joli résultat de ce qu'il nomme pour se rassurer, sa grande délicatesse, sa générosité. Cette faiblesse qui le rend, comme tout à l'heure, ça n'a pas manqué, incapable de résister au moindre compliment, qui le fait rougir, palpiter, se rétracter, s'offrir. Mais non, vous exagérez, j'ai écrit cette étude si vite, au fil de la plume, il aurait fallu avoir plus de temps, mais vous me dites que Brûlé, vraiment, cela me surprend tellement de sa part. Encore, juste, encore un peu, il se tend, c'est trop délicieux, là, là, ses caresses, ses tapotements. Mais bien sûr, les oreilles ont dû vous tinter, si vous aviez entendu comme Brûlé en parlait. C'est lui d'ailleurs, Brûlé, qui me l'a signalé, parce que moi, les fruits d'or, vous savez, moi, il y a quelque chose, mais Brûlé m'a dit, lisez donc l'article de Parot, c'est magistral, vous serez fixé. Il a envie de crier grâce, c'est trop. Il pousse de petits gênements effrayés. Vraiment. Et moi qui avais voulu le refaire, je n'en étais pas content. Non, c'est vraiment très beau, votre meilleur, d'une ampleur, d'un éclat. Mais un reproche pourtant, si je peux me permettre. Mais bien sûr, voyons, il s'abandonne, il s'offre encore ravi, après toutes ces caresses, à cet exquis, à cet à peine douloureux mordiment. Cette seule réserve pourtant, mais vous ne vous vexerez pas. Me vexer, mais au contraire, dites, ne vous gênez pas. C'est plus utile que des compliments. C'est si rare qu'on vous dise sincèrement, eh bien, ce que j'aurais, moi, reproché à cette étude, en tout point remarquable, c'est qu'elle manquait de citation. Ah, tiens, oui, c'est vrai, oui, vous avez peut-être raison, j'aurais dû. Parce que ça, vous voyez, ça m'aurait montrer exactement, parce que parfois, en vous lisant, c'est bien, on se dit, je me suis demandé par moments si tout de même vous ne leur prêtiez pas généreusement à ces fruits d'or. Et ce que vous ne comblez pas, si vous vouliez, je m'étais promis, quand je vous verrais, tenez, je l'ai là, juste un passage, pour que je me rende compte, quelques lignes choisies par vous pour me montrer. Même maintenant, il serait encore temps. Mais je crois qu'on a compris. C'est que non seulement à l'intérieur de Parot, il y a quatre ou cinq voix différentes, mais également dans ses interlocuteurs. Et on ne sait d'ailleurs plus pour finir si c'est la voix de Parot, la voix de Brûlé, la voix des autres interlocuteurs qui sont là présents. Alors pour jouer ce jeu de plusieurs voix, les anciens avaient par exemple le fameux style indirect. On pouvait toujours en latin énoncer des choses de manière directe, et puis par un jeu particulier, peu importe ici, d'infinitif, de proposition subordonnée au subjonctif, on pouvait bien montrer qu'il s'agissait non pas de la voix immédiate, mais d'une voix plus ou moins intérieure, ou de la voix du peuple. Ici, bien entendu, en français, nous n'avons pas ce recours du style indirect. Alors, on leur a remarqué, la façon de rendre les voix multiples tient aux différentes vitesses, à une succession, ou plus exactement, une confrontation de débits lents et rapides. Mais toujours dans la mesure même où ils sont trop rapides ou trop lents, de débits qui sont souterrains. Alors, est-ce que c'est absolument neuf? Au XVIIIe siècle, il y a eu quelque chose de ça. Hein, Marivaux a fait des choses. Et surtout, nous avons rencontré de ce point de vue Diderot. Vous vous rappelez? Mais qu'elle a la peau blanche et douce, le béant bon point, le beau cou, le beau chignon, sœur Sainte-Augustine, mais tu es fort.
Des mêmes de ses
supérieurs. Mais chez Diderot, il est question de force, il est question de possible. Il ne s'agit pas de montrer les hétérogénéités du sujet ou de l'objet, comme chez Nathalie Sarraute. Il s'agit plutôt, chez Diderot, d'atteindre à une certaine vérité profonde du sujet ou de l'objet. Il a fallu, bien sûr, des circonstances. Il était bon, que Nathalie Sarraud, pour faire ce genre de choses, soit russe. Le russe est une langue... Bezobrazny, c'est une langue où vous êtes toujours à la fois à l'extérieur, mais aussi en dedans, entre les corps. Je dirais endosomiquement, entre les corps. Et la Russie aussi, c'est Dostoïevski. Et c'est Nathalie Sarraud elle-même qui le cite longuement dans son ouvrage critique qui est L'ère du soupçon, où on voit Père Karamazov qui se trouve en présence du Starets Zosin, le Starets qui représenterait une espèce de pureté, de vérité du langage. Et lui est là, qui se roule en quelque sorte sur lui-même, se présentant comme bouffon, puis disant bien entendu que ce qu'il vient de faire quand il se dit bouffon fait qu'il n'est déjà plus bouffon. Alors elle cite longuement, peut-être en retravaillant le texte, parce que c'est tout à fait l'accent des fruits d'or. Vous voyez devant vous un bouffon en vérité. C'est ainsi que je me recommande une vieille habitude, hélas. Je le savais, figurez-vous, et même, savez-vous, je l'ai pressenti aussitôt que je me suis mis à parler, et même, j'ai pressenti, car il y a d'étranges divinations, que c'est vous le premier qui me le feriez remarquer. C'est tout de suite, juste à l'instant, tout en racontant, que j'ai tout inventé, c'était pour faire plus piquant, c'est pour être plus aimable que je grimace, et d'ailleurs parfois, je ne sais pas moi-même pourquoi d'ailleurs, je ne dis pas... Il y a peut-être aussi un malin esprit en moi, du reste de petit format. S'il était plus important, il aurait élu un autre logis, pas le vôtre. Vous aussi, vous êtes un petit logis. Car tous, jusqu'au dernier, vous êtes plus vil que moi. Voilà pourquoi je suis un bouffon. C'est par honte, éminent père, par honte. Justement, justement, je me suis senti offensé toute ma vie, jusqu'à la jouissance, pour l'esthétique, parce que ce n'était pas seulement agréable, mais c'est beau parfois d'être offensé. Vous avez oublié cela, vénérable père, c'est beau. Vous croyez que je mens toujours ainsi, et que je fais le bouffon, sachez que c'est exprès pour vous éprouver que j'ai joué cette comédie. Je vous tâtais, y a-t-il une place pour mon humilité auprès de votre orgueil?
Bien sûr, Nathalie Sarraud est une femme, mais c'est une femme particulière, singulière, qui semble avoir au fond d'elle une violence qui lui est propre. Dans Enfance, tout d'un coup, elle raconte qu'elle voulait détruire avec un canif, elle voulait détruire le dos d'un fauteuil, et la poussée interne chez elle est tellement forte qu'elle le dit en allemand. « Ich werde es zerreißen ». D'ailleurs, il est normal qu'avec la façon dont elle sent des voix multiples, elle ait été très sensible aux langues étrangères, et alors qu'elle dit cela en allemand, dans un autre écrit, pour montrer la distance entre les êtres, en raison même de cette multiplicité des voix, tout d'un coup elle parle anglais, « This terrible desire to establish God. Et les Juifs, ce qui donne un type d'attention particulier aux signes, en tant que les signes échappent aux individus qui les utilisent. Ils échappent tellement aux individus que pour finir, ils peuvent les conduire ou être les actes mêmes des individus, et c'est Ionesco. Ionesco, on pourrait le présenter comme étant d'abord un anthropologue, comme ayant donné implicitement peut-être la définition la plus opératoire de ce que c'est que l'être humain, à savoir, c'est vraiment l'animal signé. Un animal qui est constitué, bien sûr, il a un corps, il a un environnement, il a un système nerveux, et pour le reste, il est fait de signes. Des signes qui sont tantôt des indices, tantôt des index, ou bien des signes analogiques, ou bien des signes digitaux. Eh bien, il y a justement quelque chose qui peut à la fois montrer toutes ces dimensions du signe, et c'est le couteau. Et ce sera le thème de la leçon. La leçon étant exactement cet acte où le corps humain va être revêtu de ces signes va être littéralement, plutôt même que revêtu, constitué par ces signes. Le professeur, prononcez bien, couteau, couteau. Et il suffit déjà de le dire pour que le signe soit opératoire. Nous savons déjà très très bien ce qui va se passer. Couteau, tellement puissant phoniquement en français. Et l'élève, le professeur évidemment est un grand sec, un peu âgé. L'élève est, on le devine, c'est une jeune fille, on l'imagine même un peu ronde, très proche de son corps. Et elle répond, elle répète, oui, elle arrive à répéter, couteau, ma gorge, le professeur, couteau, couteau, l'élève, couteau. Mes épaules, mes bras, mes seins, mes hanches, couteau, couteau, le professeur. C'est ça, vous prononcez bien maintenant. L'élève, couteau, mes seins, mon ventre, le professeur changeant de voix. Attention, ne cassez pas mes carreaux. Le couteau tue. L'élève, d'une voix faible. Oui, oui, le couteau tue. Bon, on a tout deviné, à ce moment-là, il y a le « A » du professeur, il y a le « A » de l'élève. Il a frappé de son couteau, le couteau signe. Le couteau qui est à la fois, bon, il est un outil, d'autre part c'est un indice. Si vous avez un couteau sur vous, c'est l'indice de toutes sortes de choses. Mais en même temps, ça peut être un index si vous montrez quelque chose avec un couteau. C'est particulièrement efficace. C'est un signe analogique, peut devenir un signe analogique du pouvoir. Mais c'est aussi le signe le plus tranchant, celui qui va pouvoir séparer sèchement le bit 0. 1. L'opposition oui, non, noir, blanc. Ce signe est tellement absolu qu'ici il aboutit au meurtre. Et le signe est tellement fort. Nous sommes tellement des signes. C'est une expérience que tout le monde a faite quand on allait voir la cantatrice chauve et qu'on sortait du théâtre de la Huchette. On n'osait pas parler dans la rue parce qu'on se rendait compte qu'à tout moment on était en train de faire du Ionesco. C'est-à-dire que les signes sont tellement opératoires que non seulement un signe comme couteau peut provoquer un meurtre, mais que les signes s'engendrent les uns les autres, et que aussi, et c'est ce qui arrive le plus souvent, ils se mettent à tourner, à former un cercle, à former une boucle. Et c'est l'impromptu de l'Alma, où Ionesco est en train de recevoir des critiques qui viennent lui demander quelle est la pièce qu'il écrit, si elle avance, et la pièce qu'il écrit, ce sont des critiques qui viennent demander à Ionesco quelle est la pièce qu'il écrit et si la pièce avance, et ainsi indéfiniment. Alors, nous sommes dans l'absurde? Non. Non. Parce qu'il reste deux choses, ou une chose, c'est une certaine tendresse à l'égard des objets et la jouissance des mots. Pour un film qui vient d'être tourné sur lui, on a demandé à Ionesco d'improviser un petit récit. Et il a imaginé, c'est une famille, la mère s'appelle Jacqueline. Ah oui, il faut l'entendre dire lui-même Jacqueline. Et le père, comment s'appelle-t-il? Mais évidemment, il s'appelle Jacqueline. Et la fille, bien sûr, s'appelle Jacqueline. Et la table dans la maison s'appelle, et le fauteuil, etc., tout pour finir, s'appelle Jacqueline. Et là, nous touchons, c'est toujours de l'anthropologie tout à fait essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain vit? C'est qu'ainsi, à tout son environnement, à tout son devenir, d'instant en instant, il donne des mots. Il, j'allais presque dire, transpire à la manière d'Artaud. Hein? Ces mots sont là, tout proches de son corps, dans cette transpiration de Jacqueline. Et c'est bien ce qui se passe pour le roi semeur. Il avait jusque-là été projeté dans toute la sottise des enchaînements mécaniques du pouvoir, qui sont des enchaînements mécaniques de signes. Et tout d'un coup, devant la mort, il n'y a plus rien. Et il voit le fond des choses. J'aimais tellement. Ça commence justement comme Jacqueline. Le pot-au-feu avec ses légumes. Des pommes de terre, des choux, Jacqueline, des choux, et des carottes, qu'on mélange avec du beurre, et qu'on écrase avec la fourchette pour en faire de la purée, comme les écrivains font avec des mots. Je n'avais encore jamais remarqué que les carottes étaient...